Voilà, gloire au Seigneur. On va partager ensemble la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la parole de Dieu, elle est bonne? Amen. Elle nourrit notre âme, elle nous fait du bien, elle nous conseille, elle exhorte. Et puis, voilà, il y a des moments, des situations dans notre vie où elle va venir trancher. Et nous, on veut se laisser, le peuple de Dieu, nous voulons nous laisser diriger par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui se souvient de la prédication de dimanche dernier? Exercice. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On avait parlé de qualité chrétienne, vous en souvenez, hein, de qualité, de caractère, certaines personnes qui étaient là, on avait vu quelques personnages. Alors du coup, seconde question, vous souvenez-vous des personnages? Alors j'entends Abraham, oui, Jérémie, Néhémie et Moïse. Et quelles étaient leurs caractéristiques? Alors certains vont dire, oh là là, le pasteur, il nous réveille là ce matin. La patience, oui, le patriotisme, alléluia, on avait terminé par ça. Et puis on voyait dans la continuité que le Seigneur, il veut encore nous exhorter, mais sûrement que les sœurs qui êtes là ce matin, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'exemple de femmes. Alors on va rattraper le coup ce matin. Comme c'est la fête des mamans, hein, et entre parenthèses donc, cette fête qu'on veut mettre à l'honneur, hein, évidemment pas une fête biblique, mais on comprend derrière ça de mettre à l'honneur, parce que quand même c'est une responsabilité que d'être maman pour voilà, l'éducation des enfants. La Bible nous dit, et peut-être c'est un encouragement pour quelqu'un ce matin, « Jette ton pain à la surface des eaux ». La suite du verset nous dit « Et avec le temps, tu le retrouveras. » Qui est né ici au milieu de nous dans une famille chrétienne? On bénit nos parents pour ça. Alléluia. Ils ont découvert la vie avec le Seigneur. Puis cela nous a été inculqué. Et puis quand nous avons eu besoin, en fait, on s'est rappelé qu'il y avait un Dieu qui était bon. Un Dieu qui se préoccupait de nous. Et nous avons crié à lui, il s'est manifesté à nous. Et donc nous l'avons accepté dans nos cœurs. Alléluia. Donc juste par rapport à dimanche dernier, on avait vu certaines qualités. Et je crois que plus que jamais, donc cette parole qui est notre guide, qui est notre nourriture, nous voulons la lire, la serrer dans notre cœur, comme dit le psalmiste, afin qu'elle nous dirige tous les jours. Et on voit au travers de quelques exemples, et donc ce matin, l'occasion est donnée de pouvoir prendre que des exemples de femmes. Alors, les hommes qui sont là ce matin vont dire, ouf, enfin un dimanche tranquille. Pas du tout, hein, parce que dimanche dernier, donc comme j'ai pris des exemples masculins, les sœurs ne se sont pas dit, voilà, hein, ce matin on est tranquille, hein. En fait, on s'approprie la parole de Dieu et on veut s'inspirer de ces femmes, hein, que Dieu a utilisées. Mais vous allez le voir, hein, que ce ne sont pas des femmes les plus connues, hein, parce que j'avais posé la question, d'après vous, on va partager sur quelles femmes, quels exemples on va prendre. C'est sûr, on aurait pris tout un panel de femmes qui nous ont inspirées, certaines étaient des meneuses, voilà, d'autres avec une qualité de cœur les plus connues. Il y a même des livres dans la parole qui portent leur nom, hein, on voit l'importance, mais on va voir que ce sont peut-être des femmes voilà, moins en vue, qui ne viennent pas spontanément en premier quand on réfléchit à cela. Juste vous dire que dimanche dernier, on avait vu donc la foi d'Abraham, la patience de Moïse et le patriotisme de Néhémie. Et ce matin, donc, nous voulons continuer ce partage avec une femme. La première, c'est Rahab. Eh oui, hein, qui se trouve dans le livre de Josué. Chapitre 2, on va lire juste quelques versets d'introduction et on va voir la qualité de cette Rahab. Rahab, elle va finalement donc véhiculer dans sa vie de la bienveillance et de la bonté, également de la préservation concernant sa famille et le futur. Ça va nous parler ce matin, évidemment, au travers de cet exemple. Rahab, donc, on lit Josué, chapitre 2, Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho ». Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Déjà, d'emblée ici, cette femme, elle nous est présentée avec une particularité quand même qui est importante pour nous tous afin de situer les choses, c'est que Rahab était une prostituée. Alors, pour certains, on pourrait s'offusquer. Mais pour le Seigneur, une âme est importante. Alors certes, sa situation, il fallait qu'elle la rectifie, mais quand même, c'était une prostituée, on s'aperçoit qu'il y a la grâce de notre Seigneur, et donc ses yeux de grâce se sont posés sur la vie de Rahab, et à un moment donné, elle va avoir une certaine intelligence spirituelle. Que Dieu fasse qu'encore et toujours, dans son Église, au milieu de nous, et le Seigneur puisse développer dans nos vies de l'intelligence spirituelle, afin que nous puissions discerner les choses du Seigneur. Alléluia. Et ce qu'elle a fait, la suite du passage nous dit que donc c'est une prostituée, et elle a caché les espions israélites, et elle a été sauvée lors de la prise de Jéricho. Et l'élément clé, encore une fois, dans sa vie, c'était cette foi, par rapport à ce qu'elle avait entendu de ce peuple qui venait, et donc il y avait cette foi, elle se disait, mais finalement, c'est le seul Dieu, le grand Dieu de l'univers, et c'est vers lui que je veux me tourner. La foi, oui, elle se manifeste chez n'importe qui, tous ceux et celles qui recherchent la foi, elle se développe, et elle est indépendante de notre passé. On peut, pendant un certain laps de temps dans nos vies, ne pas avoir la foi, et puis à un moment donné, il y a cette foi, cette confiance par la révélation de Christ, alléluia, qui se manifeste dans nos vies. Amen. On s'aperçoit également qu'au niveau de la bienveillance de cette Rahab qui va donc à un moment donné essayer de préserver, va réfléchir, elle a cette intelligence d'esprit, cet état de cœur où elle se dit, en fait, le peuple va venir attaquer, il faut absolument que moi et ma famille nous soyons sauvés. Et ça s'appelle de la bienveillance. Et la bienveillance, c'est, on le sait, c'est un fruit de l'esprit. Plutôt un quartier du fruit de l'esprit. Être bienveillant, être plein de bonté. Ces traits de caractère qui sont produits en nous par l'esprit, donc concernent la relation avec les semblables. Est-ce que vous êtes connu pour être quelqu'un de bienveillant? Répondez pas, s'il vous plaît. Gardez votre réponse pour vous. Eh oui, quelqu'un de bon. Est-ce que vous rendez facilement service? Ou alors c'est à condition que ça marche dans l'autre sens. Je disais à quelqu'un, avant-hier, la personne me disait, oui, mais bon, j'ai fait certaines choses, et puis en retour, on ne m'a pas donné ce que moi j'espérais. Je dis, mais ce n'est pas la mentalité de la parole. La parole de Dieu, c'est de faire les choses avec désintéressement, ça c'est difficile. Être désintéressé, faire les choses parce qu'elles sont en nous et on ne peut pas faire autrement que d'aimer, que d'être dans la bonté, qu'être bienveillant. Et c'est veiller donc les uns sur les autres. Nous considérons généralement la bonté, la bienveillance comme étant une expression de l'amour qui a été déposé dans nos cœurs. C'est cela. Si à un moment donné il n'y a pas cette bienveillance, on peut douter qu'un jour on ait pu découvrir l'amour de Christ. L'amour va se manifester par cette bienveillance. Alléluia. La bienveillance, on doit la découvrir comme une vertu et également un critère de pureté. Aide-nous, Seigneur. La bonté, c'est aussi une disposition gracieuse dans le caractère. Est-ce que vous êtes quelqu'un rempli de bonté, qui attire les gens, qui attire les autres? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui ont, je vais le dire comme ça, un sacré caractère. Vous allez remarquer assez rapidement que, spontanément, on aura un peu plus de difficulté à aller les voir. On aura un peu plus de difficulté donc, à s'approcher d'eux, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Par contre, quand quelqu'un est rempli de bonté, de bienveillance, c'est comme deux aimants qui s'attirent. On est attiré par ces choses-là. Que Dieu fasse que dans notre cœur, il y ait cette bonne disposition et que ça puisse être retranscrit dans le caractère et surtout dans les attitudes, et je rajoute, concrètes. Parce que le dire qu'on est bon, qu'on est bienveillant, c'est une chose, mais c'est dans les faits. Il y a mis une parabole dans la Bible, c'est cette veuve qui va venir importuner pendant la nuit. La personne qui est couchée, alors imaginez-vous, on est couché, on vient juste de s'endormir, puis quelqu'un vient nous importuner, boum, 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 oui, quelqu'un vient d'arriver chez moi et il me manque quelques éléments. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on aurait dit, écoute-moi, je suis au lit, débrouille-toi un peu. En général, c'est comme ça qu'on réagit. Mais face à l'insistance, là aussi, il était prouvé, face à l'insistance, il va se lever, il va lui accorder. Ça, c'est une belle image aussi pour chacun d'entre nous. Les attitudes concrètes. Et ça comprend également la tendresse. La tendresse dans nos cœurs. Et le contraire, c'est un peu la dureté. Et il y a des cœurs qui sont durs, qui ne laissent rien transparaître, ne serait-ce que simplement le fait d'être dans la joie, de sourire, c'est un effort. Vous connaissez des gens comme ça? Ne regardez personne autour de vous. La tendresse. Et nous-mêmes, quand on parle de tendresse, ça n'a rien à voir avec la faiblesse dans un certain sens. La tendresse de Christ, nous y avons goûté. On a goûté à cette tendresse et quand on a découvert que le Seigneur, en tout cas ça a été, pour moi ça a été comme ça, quand le Seigneur m'a pris, c'est cette image, dans ses bras d'amour et il m'a serré contre son cœur, alléluia. Et là je sentais la tendresse qu'il avait pour moi en me disant, malgré ton passé, malgré tout ce que tu as pu faire, mais je t'aime, on l'a entendu ce matin. Et des fois avec ce mot on a de la difficulté, pourquoi? Parce que souvent c'est dû à notre passé. Quand le don spirituel a été apporté ce matin, dans ma tête, je me disais, ok, certaines personnes ont de la difficulté à comprendre le mot « je t'aime ». Et pour cela, on doit se laisser aimer. Et il y a des personnes qui ne se laissent pas aimer. Et puis, on va sortir l'excuse en disant « oui, mais regardez, dans ma vie, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela ». Alors, sans dénigrer quoi que ce soit, évidemment, de par le passé. Mais laissez-vous guérir, laissez-vous aimer par le Seigneur. C'est la meilleure des choses que nous puissions faire. Et de se sentir aimé, il n'y a personne ici-bas sur terre qui peut vivre sans l'amour, sans ressentir l'amour. C'est impossible. Et le Seigneur, lui, qui est grand, qui est riche dans cet amour, il veut le déverser dans notre vie avec abondance. Pourquoi ? Pour que les gens qui sont autour de nous puissent eux également en bénéficier. C'est ça en fait. Soyons de ceux et de celles qui débordent. J'ai vu avec l'expérience que nous sommes venus des spécialistes, des réunions qui ne débordent pas. Il faut que ce soit carré. Ma conception des choses, c'est comme ça, ça n'a pas bougé. On comprend, hein ? J'ai également expérimenté que Dieu est un Dieu d'ordre. On est d'accord avec ça? Évidemment, si ça déborde dans le mauvais sens, on va arrêter de suite. De suite, on va arrêter ces choses-là. Mais se laisser déborder, donner l'opportunité au Seigneur que nous puissions déborder. Et on le retrouve, ce principe, on le retrouve dans la parole de Dieu. Et que cela soit reconnu par tous, la tendresse, la compassion, la douceur de Christ. Est-ce que nous sommes connus pour être quelqu'un rempli de compassion? La compassion, vous savez ce que c'est, hein? La compassion, hein, c'est pas simplement, il y a quelque chose qui nous touche, qui semblerait nous toucher, et puis 30 secondes après, on passe à autre chose. La compassion, c'est, on est touché par la situation au plus profond de nous, et ça nous pousse à agir. C'est ça la compassion. Et Jésus, quand il voyait la foule, qui était errante, comme sans pasteur pour pouvoir la diriger, c'était comme des brebis errantes, Le Seigneur était ému de compassion. On voit encore une fois l'amour de Dieu qui est déversé, cette compassion et la douceur de Christ. On revient à notre personnage de Rahab, la prostituée qui est une païenne et qui a intégré le peuple de Dieu et qui va être dans la lignée royale. C'est extraordinaire. En fait, ça nous parle à nous, le peuple de la grâce. Nous, donc à qui la grâce nous a été accordée, nous n'avions même pas le droit de citer. Nous étions si loin donc de rencontrer le Seigneur, mais le Seigneur nous a intégrés à son peuple, alléluia. Et ce matin nous pouvons le dire avec fierté, avec honneur, je suis un enfant de Dieu et j'appartiens donc au peuple de Dieu. Et ce matin nous nous sommes présentés ensemble en tant que peuple de Dieu. Parce que louer le Seigneur, on le fait chez nous. Hein. Mais nous sommes venus tous ensemble, comme une convocation de la part du Seigneur à venir le louer et l'adorer. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse passer, on puisse pas justement donc, le faire et se dire, bon, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise nuit et puis, bon, je veux venir au culte, acte de présence, hein, vous connaissez ça, hein, acte de présence, et puis ça va s'arrêter là. Mais que je sois quelqu'un voilà, qui prend parti à louer le Seigneur, à l'adorer en tant que peuple. Moi, je bénis le Seigneur. Hein, je suis sûr que la plupart aussi, vous pourriez raconter des exemples où à un moment donné, dans un culte, dans une réunion, on adore le Seigneur se manifeste de façon particulière. Et là, on vit des choses. Et là, le temps ne compte plus. On ne regarde pas sa montre toutes les 5 minutes et dire, bon, quand est-ce qu'il va finir le pasteur de prêcher chez le poulet qui est en train de cuire ou... La présence de Dieu, elle est tellement bonne pour nos vies. Donc cette prostituée donc, païenne, elle nous ressemble. Donc je l'ai dit, c'est une femme de foi. Et il y a des étapes qui vont la conduire, finalement, à ce que sa foi, elle se révèle. Tout d'abord, on remarque, donc Josué 2, verset 10, on va remarquer que elle va apprendre. Elle dit... « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, donc Sihon et Og. » Donc on voit ici qu'elle a appris. La nouvelle est parvenue jusqu'à elle que le grand Dieu de l'univers, celui qui est capable d'ouvrir une mer en deux, des fois, on banalise, hein. Alors je le dis régulièrement pour que vraiment on soit conscient à chaque fois qu'on ouvre la Bible. Je ne sais pas, si on était dans le peuple, hein, à un moment donné, voilà, il y a la pression derrière. Donc, les Égyptiens veulent venir, ils reviennent sur leur décision, ils veulent venir pour nous exterminer, et on va mourir ici-bas. Des fois, on aurait tendance, parce qu'on connaît la suite de l'histoire, puis de façon extraordinaire, le Seigneur va agir, la mer va s'ouvrir. Et donc, cette nouvelle est parvenue jusqu'à Rahab. Et à partir de ce moment-là, elle a réalisé que Dieu était le seul Dieu vivant. Aujourd'hui, on nous présente, dans certaines religions, un Dieu. Et des fois, c'est un Dieu étranger, en tout cas étranger à la parole de Dieu. Ce n'est pas le Dieu que l'on retrouve donc, dans sa parole. On nous propose... un Dieu deux fois bon. Vous savez, le Dieu bonbon. Hein? Alors, bien sûr que Dieu est bon. Hein? Vous comprenez. Hein? Mais un Dieu qui manque, je ne sais pas, d'énergie, qui manque de puissance. Moi, quand je lis la parole de Dieu, moi, je dis, mais Seigneur, ce que certains hommes, certaines femmes ont pu vivre, mais je veux le vivre. Il y a ce feu, il y a ce désir dans mon cœur. Sinon, on est donc dans cette tiédeur. Et vous savez ce qui va se passer hein, avec les tièdes. On le sait. Hein. Donc, elle a appris. Elle a donc entendu ce que Dieu avait fait. C'est venu jusqu'à elle, ses prodiges. Et l'Église, elle est là. Elle a sa place pour pouvoir apprendre, annoncer à ce monde qui est perdu qu'il y a une bonne nouvelle, que Dieu fait encore des prodiges. Vous êtes d'accord avec ça? Eh oui, Dieu fait encore des prodiges, encore et toujours, et de façon des fois extraordinaire. Mais la plupart du temps, même dans des choses, dans la tranquillité, Je vous le disais, hein, il y a quelques dimanches, hein, à la sortie d'un culte, une sœur vient me voir, « Pasteur, je souhaiterais que vous priez pour moi, j'ai un souci à la main ou au poignet, je ne me souviens plus. J'ai prié, ben, une prière, mais pas plus simple. Hein. Seigneur, hein, je crois dans ta puissance, au nom de ton Fils Jésus-Christ, guéris-la. » Je fais un pas, et là, « Pasteur, regardez ma main !» Voilà, ça c'est la grâce de Dieu. Amen. On veut vivre ces choses-là. On veut vivre des personnes venir avec des problèmes, avec des difficultés. Et puis la présence de Dieu va se manifester afin qu'il puisse y avoir donc des prodiges, des signes, des miracles. Ça, c'est l'ordinaire de notre Seigneur. On apprend également qu'elle a craint le Seigneur. Hein, dans les versets suivants, il y a la crainte de Dieu. On sait que quand il n'y a pas de crainte, ben l'homme est sans frein. La crainte de Dieu nous garde, elle nous préserve. La crainte, c'est le début de la sagesse. Jacques nous dit, celui qui manque de sagesse, j'aime beaucoup la simplicité de la parole de Dieu. Celui qui manque de sagesse, c'est qu'il la demande à Dieu. Et Dieu la lui donnera. Point final, on passe à un autre sujet. Vous remarquerez, hein, si cette semaine, vous voulez faire une mini-étude, regardez donc l'épître de Jacques, comment il est direct. Il ne s'embarrasse pas, il dit les choses. Hein. Il n'avait pas de temps à perdre. Quand on manque de sagesse, on demande à Dieu. Et puis quand on manque de paix, quand on manque d'amour, quand on manque de toutes ces choses vitales dont nous avons besoin, alors on n'a plus qu'à demander au Seigneur et puis attendre que le Seigneur agisse dans nos vies. Alléluia, la crainte du Seigneur. Et puis elle a cru, donc la foi. Elle a confessé donc le Seigneur comme le seul Dieu. On sait qu'elle vivait dans un milieu païen, et elle va confesser, « Je sais que le Seigneur est avec vous. » Quelle belle déclaration. Et donc, consciente de tout cela, elle va faire appel à la miséricorde. Et la miséricorde, vous savez ce que c'est ? La miséricorde, c'est que quand on nous traite, on ne nous traite pas selon ce que méritaient nos crimes. C'est ça la miséricorde. Et là, nous en faisons partie. Hein. Psaume 103 nous dit... Hein. Qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, selon nos égarements. Comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Donc elle fait appel à leur miséricorde et puis elle place la confiance dans le Seigneur. Quelle foi magnifique, quelle bienveillance, quelle bonté hein, de cette Rahab. Le psaume 41, verset 1 nous dit, au chef des chantres, psaume de David, « Heureux celui... » Donc, qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Alléluia. Amen. Quand on porte nos regards, quand on ose, à un moment donné, arrêter de porter nos regards sur notre propre personne, quand on s'intéresse à l'autre, regardez la promesse ici. L'Éternel le délivre. Prenez cette habitude de prier pour les besoins des autres. Et la Bible nous dit que quand on s'occupe des autres, des malheureux, alors le Seigneur va venir nous délivrer et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Une délivrance donc exemplaire. Vous savez comment, le moyen, si ce n'était pas raconté dans la parole, on aurait du mal à le croire. À un moment donné, il y a tout ce symbolisme qui est là aussi dans la parole et au travers de cette histoire. Alors, je ne rentre pas dans l'histoire, vous le comprenez, hein, ça prendrait un peu trop de temps, mais le moyen de reconnaissance, un fil rouge, cramoisi, pour qu'on puisse reconnaître la maison de Rahab, quel symbole ? Le sang de Christ, il couvre une multitude de péchés, il nous protège, alléluia ! Et amen, ça c'est merveilleux, donc une délivrance exemplaire grâce à un fil rouge, et ça c'est la préfiguration de ce qui va se passer des milliers d'années plus tard à la croix du calvaire, et c'est ce dont nous nous sommes souvenus ce matin. À un moment donné, Christ est allé à la croix, le sang a coulé, il nous lave et il nous purifie de toute iniquité. Et ce qui est important, c'est le mot « toute ». Toute iniquité, quand on se présente devant le Seigneur, nous sommes purifiés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Des fois, on a du mal parce qu'on raisonne avec notre état d'esprit humain. Mais quand on le réalise spirituellement, je dis, Seigneur, je peux m'approcher de toi. Amen. Dans ce sang coulant, C'est le sang du sacrifice, la préfiguration, c'est le sang de Jésus versé à la croix. Et donc, elle a eu cette préservation. Gloire à Dieu. Alléluia. La bienveillance, qu'elle soit au milieu de nous, de la bonté, les uns envers les autres, dans nos rapports mutuels. Amen. Et pour cela, il faut que l'on puisse laisser le Seigneur travailler nos cœurs. Amen. Un deuxième personnage, ce n'est pas une femme, c'est une jeune fille. C'est une petite servante. Dans Deux Rois, on trouve cette histoire, Deux Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. On va trouver cette histoire. Ceux qui connaissent la Bible savent de quoi on va parler. Deux Rois 5, verset 1er. C'est Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, il avait un souci, il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui les 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements en rechange. Alléluia. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alléluia. On sait que tout ce qui va se passer derrière. Mais j'aimerais ici souligner la fidélité d'une petite servante. Quelqu'un qui semblerait, regard humain, insignifiante. Et on voit cette fidélité dans un pays étranger. Elle avait été amenée captive, on l'a lu ensemble. Est-ce qu'on se met 30 secondes à la place de cette petite fille? Déracinée de l'endroit où elle était. On ne sait pas dans quelles circonstances. Sûrement que ça a causé des traumatismes dans son cœur, sûrement. Déracinée de sa famille pour aller servir dans un pays étranger et pour être au service de quelqu'un d'autre, terrible comme condition. Et pourtant, elle va rester fidèle. Aujourd'hui, la fidélité, c'est quelque chose, quand vous parlez de fidélité, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, on va vous regarder un peu de travers, parce que la fidélité a tendance un peu à fuir et à ne pas être là. On sait qu'il y a des bases de la fidélité, et la base de la fidélité, encore une fois, c'est la foi et la confiance en Dieu. On reconnaît quelqu'un de fidèle dans sa manière de vivre sa foi avec persévérance. Alléluia. Le fidèle, c'est celui qui est stable. Stable à tous les niveaux. Stable au niveau des émotions. Stable au niveau de sa marche. Et je crois plus que jamais que le Seigneur veut nous conduire dans des moments, dans une vie de stabilité. Pourquoi? Tout d'abord parce que Dieu est stable. Imaginez-vous si le Seigneur a changé d'humeur, comme certains à un moment donné. Vous savez qu'il y a des personnes, des fois, vous les croisez un jour, ils vous embrassent, vous sortent au cou, on aurait dit que ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Puis le coup d'après, on passe devant vous, on vous ignore complètement. Qui est de la stabilité à tous les niveaux. Dieu est un Dieu qui est stable. La fidélité donc, de celui qui est stable, il n'est pas changeant, il n'est pas flottant ou inconstant. Un coup en haut, un coup en bas, mais qui demeure ferme dans la foi en Jésus-Christ. La fidélité est une vertu qui ne supporte aucun pourcentage. On ne peut pas être fidèle à 52%. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ni même à 90%. On est fidèle à 100%. La fidélité. Il y a une rémunération à la fidélité. Quand on est fidèle à notre Seigneur, être fidèle n'est pas un exploit en soi, mais une juste attitude envers celui qui a racheté nos âmes. Proverbe, chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Dites-moi, si je vous ai posé la question, qui veut être comblé de bénédictions? Tous? Alléluia, il y a des mains bien levées. On veut la pleine bénédiction. Alléluia. Alors il faut de la fidélité. Fidélité en toutes choses. Fidélité évidemment avec le Seigneur, dans ma relation. Fidélité, et des fois on aurait tendance à l'oublier, mais aujourd'hui plus que jamais, il faut le dire, à mon appartenance, à l'Église, on a parlé de patriotisme. C'est important, hein. Aujourd'hui, donc sur Internet, on peut se suffire à nous-mêmes. Une façon égoïste de vivre l'Église. Je mets mes 4 ou 5 louanges préférées. Je choisis mon prédicateur préféré qui est mieux que le pasteur que j'écoute le dimanche. Et puis je vis une vie, donc un semblant de vie avec le Seigneur et une vision qui est faussée de l'Église. Mais l'Église, je viens à l'Église pour prendre, évidemment, hein. Mais j'y viens également pour donner. Et moi, je bénis le Seigneur. Combien de fois ça nous est arrivé? Peut-être, on est arrivé à l'église un peu fatigué, un souci, quelque chose qui est là. Et puis, on s'est préoccupé de louer le Seigneur. Quand on est ressorti, alléluia, on a reçu une parole de Dieu, on est reparti, on se dit, mais oui, le Seigneur est fidèle, c'est la vérité. Le Seigneur, il porte ses regards sur nos vies. Et le Seigneur, il a prévu de le faire à un endroit. Quand? Quand son peuple se réunit. C'est là où il envoie sa bénédiction. Et là où le Seigneur envoie sa bénédiction, moi, je veux tout faire pour y être. C'est pour ça qu'on dit, vous savez, alors évidemment, hein, il y a une partie un peu qui est désagréable, mais finalement, quand on réfléchit, si on est 10, 20, 30, 50, ça ne change rien personnellement pour moi, dans ma vie. Mais quand même, ensemble, quand on est ensemble, on réalise, mais c'est bon d'être ensemble. Et aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a cet état d'esprit un peu d'égoïste, on se retire, on reste loin. La Bible nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. Ça sous-entend qu'il y a un souci, en fait. Et la question, elle est, est-ce qu'on veut le régler ou on veut continuer comme ça? Ça va continuer des semaines et des semaines, ou alors à partir du moment où on prend le taureau par les cornes? Une expression, hein, ne le faites pas. Prendre les choses en main et se dire, mais oui, il faut que je mette en pratique ce que la Bible me conseille. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Bon, on va passer là-dessus. Hein. Il y a une vigilance pour nous. Une vigilance à quoi? Au laxisme. Le laxisme, c'est terrible. Tendance excessive à la conciliation, à la tolérance. Vous savez que moi, quand je lis dans la parole de Dieu, Jésus-Christ était intransigeant. Sur certains points, il coupait net. Aujourd'hui, je remarque que dans les discussions, il y a une ouverture un peu à tout. Parle de Dieu, un peu de spiritualité, tout va bien. Et oui, hein, c'est pas parce que, vous l'avez entendu ça, on va, je sais pas, hein, dans une concession automobile que forcément on va être une automobile. Hein. Pas parce qu'on vient dans l'église qu'on va forcément devenir un chrétien. C'est dans la vie de tous les jours. Dans cette relation avec le Seigneur et ce laxisme, dans cette conciliation, cette tolérance. Il y a également la vigilance à la tiédeur, à la paresse. Aujourd'hui, c'est un mot qui revient. Hein. Si vous côtoyez des jeunes, vous allez vous apercevoir assez rapidement que ce mot-là va revenir rapidement, la flemme. La flemme. On n'a pas commencé à vivre, on a la flemme. C'est terrible. Alors on comprend, hein. Il y a un moment donné le côté un peu physique, hein, quand il y a ces fameuses poussées, ça fatigue. Mais des fois, vous savez, ces ados-là qui traînent les pieds et ils n'ont rien fait de leur journée, je suis fatigué. Vous avez connu ça? Puis on a été ados aussi, hein. Évidemment. La paresse. Mais moi, je retrouve dans la Bible que la paresse, quand il y a cette paresse, on est en danger. Proverbe chapitre 6. Mais il y a un encouragement. à la fidélité. Apocalypse 2.10. Regardez ce que nous dit la parole. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ah, j'apprends ici qu'il y a peut-être de la souffrance. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Regardez la fin. Sois fidèle, il y a une limite. Elle est fixée par le Seigneur. Elle est où la limite? Jusqu'à la mort. Je crois que vous êtes bien en vie ce matin. Alors nous devons rester fidèles. Alléluia. Amen. On revient à Proverbes chapitre 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Vous savez, en général, quand on note, alors je dis en général et en principe, quand on note, on a moins de facilité à oublier. Ici, le Seigneur, le conseil qu'il donne est « lis-les à ton cou pour te rappeler, écris-les, où ça ?» Sur la table de ton cœur, alléluia. Et quand le cœur, hein, ces choses-là sont inscrites dans le cœur, alors il va y avoir une cohérence avec ma bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. Alléluia. Et aujourd'hui, on devrait s'en méfier, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des catégories de personnes qui parlent beaucoup. Mais dans les faits, le Seigneur nous attend dans les faits, c'est-à-dire à certaines choses, dans le concret. Alors que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Une troisième personne, rapidement, troisième personnage, c'est la femme à la perte de sang. Alors elle, vous l'avez entendu parler d'elle, hein, évidemment, souvent dans les réunions d'évangélisation, et pour voilà, la foi, si je pouvais simplement toucher le bord de son vêtement, quelle belle attitude. Ici, cette femme, elle nous parle de détermination. Être déterminé, savoir ce que l'on veut. On voit qu'elle est dans la détresse, 12 ans dans la maladie, longue épreuve, 12 ans. Déjà quand on commence à souffrir quelques heures. Souvent ça arrive, vous avez remarqué, quand il y a une douleur, c'est la nuit, qui va nous empêcher un peu de dormir. Elle, 12 ans, longue épreuve. Et pourtant, elle avait essayé d'améliorer sa situation, elle avait fait des efforts, mais ses efforts ont été vains, plusieurs médecins n'ont pu la guérir. Donc, et le mal va aller en s'empirant. Il faut vraiment, absolument faire quelque chose. Et là, elle entend parler de quelqu'un qui est capable de guérir. Et donc, il va y avoir sa foi, sa confiance qui va s'exprimer. Elle va s'approcher de Jésus. Quelle belle initiative. Elle écarte les obstacles. Nous, encore une fois, on lit, on dit, ben oui, elle va arriver, elle va être guérie. Mais c'était au péril de sa vie. Elle n'avait pas le droit à ce moment-là de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc elle écarte les obstacles, la foule, les disciples même. « Oh Seigneur, repousse-la !» Et elle va toucher le vêtement de Jésus. Qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre qu'il y a une façon spéciale de toucher le Seigneur. D'ailleurs, les disciples qui nous ressemblent beaucoup, hein, ils vont dire « Mais Seigneur, mais qui m'a touché ?» Et c'est absurde en fait. On est oppressé par la foule. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation, c'est terrible. Hein. Oppressé par la foule, tellement de monde, on est là, on est serré. Et puis, je veux dire, mais Seigneur, quand même, c'est parce qu'en fait, elle a touché spécialement le Seigneur. Elle va exprimer sa foi. Et si je touche le bord de son vêtement, la suite du verset nous dit, je serai guéri. Certitude. Alors, il va y avoir une récompense à sa foi. Elle sent physiquement la guérison. Ça se passe à l'instant T. Elle écoute Jésus et en fait, Jésus va lui dire, il va lui révéler son amour. Regardez comment Jésus va l'appeler. Ma fille. À ce moment-là, une trentaine d'années, hein, le Seigneur. Ma fille. L'affection du Seigneur. Et son salut va arriver. Ta foi t'a sauvé. Et la puissance va être Donc déployé, va en paix. Alléluia. Alors, on connaît également beaucoup de personnes qui commencent tout et finissent rien. Vous connaissez des personnes comme ça, évidemment. Que nous ne soyons pas dans le lot. Que nous soyons de ceux et de celles qui sont déterminés à obtenir certaines choses dans nos vies. Amen. Ce matin, je l'ai entendu, prière, notamment de Claude, qui a cité Moïse, qui a dit au Seigneur, « Je veux voir ta gloire. » Je ne sais pas si c'est Claude ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. « Je veux voir... » Ah oui, c'est Béatrice. C'est pour ça que quand je me suis tourné, j'ai vu Béatrice, il m'a semblé que c'était Béatrice. Donc, Moïse va dire, « Je veux voir ta gloire. » Et des fois, dans nos vies, nous faisons des prières comme ça spontanées. « Seigneur, encore plus de toi. Seigneur, beaucoup plus de toi. » Et si le Seigneur nous disait, « Eh bien, chiche, tu veux voir ma gloire ?» Est-ce que c'est réellement une prière dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce que tu poursuis? Si tu poursuis ces choses-là, il va y avoir un prix à payer. Et ça, souvent, on l'oublie. Qu'il y a quelque chose à sacrifier, peut-être du temps, peut-être recentrer certaines priorités. Aujourd'hui, on le voit, on est tous d'accord qu'il faut évidemment travailler pour pouvoir manger aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une malédiction, de par les conséquences du péché. On est d'accord. Mais quand l'échelle de valeur est inversée, quand toute notre vie est basée sur le travail, et que sur le travail, ou autre chose, passion, plein d'autres choses, en fait, tout est inversé, et ça ne fonctionnera jamais. Ça fera de nous des chrétiens tièdes. Des chrétiens sans saveur. Ah, c'est terrible. Il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui n'a pas de saveur. Parce qu'il y a cette promesse de la part du Seigneur, on en a parlé hier avec les jeunes, le Seigneur nous a dit qu'il ferait de nous le sel de la terre. Quand la nourriture, ça manque excessivement de sel, c'est fade. Quand il y a le sel, de suite, ça rehausse. Nous avons cette responsabilité. C'est une responsabilité de donner du goût. Évidemment, on a croisé certaines personnes qui, au contraire, témoignaient à certains que si c'est ça, la vie et la marche avec le Seigneur, j'en veux pas. Ça, c'est terrible. Et on aura des comptes à rendre par rapport à ça. On a une responsabilité. Donc cette femme, elle est déterminée, que nous soyons déterminés. Déterminée, c'est courir vers le but. L'homme de Dieu va dire, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la fin de la course, mais je fais une chose, je cours. C'est-à-dire, je suis en action. Je continue de courir. Je puise mes forces dans la présence de mon Seigneur et je continue de courir. Le Seigneur nous a jamais dit que ça allait être facile. Et c'est là où ça se complique pour nous. On cherche la facilité. Quand nous nous sommes engagés avec le Seigneur, c'est un chemin, certes, qui est dur, qui est rocailleux, qui est étroit, qui est resserré. Il y a même des dangers qui sont là. Le sentier est étroit. Quand on regarde en bas, on voit peut-être le précipice. Mais souvenez-vous que le Seigneur nous a donné une promesse. Il a dit, mais moi je suis avec vous. Quand? Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors on veut persévérer, on veut continuer, être déterminé. Amen, que le Seigneur soit béni. Des fois, je le dis, il ne faut pas qu'on inverse. On est déterminé dans certaines choses dans nos vies, des choses matérielles. Il y a des choses qui sont louables. Déterminé, à réussir un diplôme, réussir dans la vie, être déterminé à avoir sa maison, sa voiture. Rien de mal à tout ça, pourvu qu'on n'y mette pas tout notre cœur dedans. C'est ça. Mais le plus important, c'est de courir, être déterminé à avancer, courir vers le but, et de nous fixer l'objectif que nous ne voulons pas nous laisser distraire. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut nous distraire? Et souvent, il ne va pas nous confronter de front en disant « mais quelque chose de malsain, quelque chose de pas bon » ou « on le verrait arriver ». Souvent, c'est sournois, la distraction. La détermination pour plein de choses. Et puis, on s'aperçoit que pour les choses de Dieu, on entend souvent « autant de Dieu, quand Dieu voudra ». Est-ce que vous savez que Dieu veut notre changement? Aujourd'hui, Pas demain, quand Dieu voudra, c'est la volonté de Dieu. Alors si on attend que Dieu nous confirme qu'il veut, mais il nous le dit, mais oui, il veut. Alors la question est pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rééquilibre pour atteindre la ligne d'arrivée, ou alors on continue comme ça? Moi, en tout cas, j'ai pris la décision. Pour moi-même. Je ne peux pas la prendre pour vous, évidemment. Mais chacun d'entre nous, on doit répondre à cette question. C'est l'histoire de Josué, vous rappelez? Josué 24, verset 15. Il fait une proposition, il dit, voilà, le Seigneur est là, il est avec nous, il nous a délivrés. Je ne sais pas ce que vous allez faire, vous. Mais lui, il dit, mais moi et ma maison, responsabilité et transmission, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes appelés à servir le grand Dieu de l'univers, à lui seul, soit toute la gloire. Merci Seigneur. Vous voyez, au travers de ces exemples, le Seigneur voulait encore nous parler, il y a certaines qualités qui étaient là, de certaines personnes, et on veut s'en inspirer ce matin et s'attendre à un changement réel, concret dans nos vies. Amen. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour ta parole, merci pour ta grâce et merci pour ton amour, Seigneur. Comme a dit l'homme de Dieu, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons fait le choix de te suivre. Seigneur, aide-nous à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à être de ceux et de celles qui sont bienveillants, qui veillent sur les uns, sur les autres. Seigneur, tu nous as appelés à être des enfants, Seigneur, tes enfants. Et nous sommes responsables les uns des autres. Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et que la gloire se manifeste, ta gloire se manifeste dans nos vies, Seigneur, qu'il y ait des résolutions, Seigneur, des hommes, des femmes de Dieu qui ne sont pas déstabilisés par quoi que ce soit, mais de la stabilité profonde, concrète, réelle. Seigneur, nous te bénissons. Bénis celui et celle qui a besoin, peut-être ce matin, d'une guérison, qui a besoin, Seigneur, d'un éclairage, qui a besoin, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse découvrir ta volonté concernant, Seigneur, une décision importante, Seigneur, pour le futur. Seigneur, je te demande ta grâce, parce que nous l'avons partagé ce matin. Tu es un Dieu qui aime bénir. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen.